Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Vendredi en fin de matinée, les Français pourront assister à une importante éclipse de soleil. Voilà qui a donné des idées à Franck Ferrand et à son invité. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Mon invité, c'est le monsieur Science, le monsieur Espace d'Europe 1, Alain Siroux, dont le magazine Ciel et Espace consacre sa une à la belle éclipse de vendredi. Alors, avant de lui donner la parole, je vous propose de revenir sur un certain nombre de ces phénomènes célestes qui ont marqué l'histoire.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Sébastien sur l'origine des facteurs. Les préposés au courrier.
Est-ce qu'on sait si Sébastien est lui-même facteur? C'est possible en tout cas. Hein. Pour le moment, je vous propose de lever un peu les yeux vers le ciel et vers l'espace.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Pour nos ancêtres, elles sont un signe de la colère des dieux ou de leur acrimonie vorace. Quelle étrange créature a bien pu dévorer le soleil? En fonction des lieux, en fonction des croyances, tous les animaux fabuleux ont été requis pour la tâche. On pense en Chine qu'il s'agit d'un dragon. Les Indonésiens aussi pensent que le dragon doit être absolument formidable pour être capable d'avaler le soleil. Vous imaginez? En Sibérie, on parlerait plutôt d'un vampire. C'est un loup-garou qui est censé, en Serbie, accomplir le même office. En Argentine, au Paraguay, je vous parle là de l'Amérique précolombienne, c'est le célèbre dieu Jaguar qui est censé s'emparer de la lumière et ne la restitue qu'à grand regret. Les Vietnamiens, pour leur part, auraient tendance à pencher pour une grenouille. Pierre Guillermier et Serge Kouchmi dans Éclipse Totale nous disent « Le batracien géant, lié par une chaîne d'or à l'étang Han, profite parfois du sommeil du seigneur voisin pour s'échapper. Il faut alors que les dames de la lune courent chercher le seigneur de Han, seul capable de faire rendre gorge au monstre, et pour les aider à le réveiller, les jeunes filles frappent leur mortier à riz de leur pilon. Il faut imaginer un pays entier qui se met à frapper pour faire rendre gorge au monstre et pour qu'enfin il restitue la lumière, source de toute vie. » On a retrouvé, figurez-vous, dans une des plus vieilles bibliothèques de l'humanité, dans un des greniers où sont gardés nos plus vieux papiers de famille, on a retrouvé à la bibliothèque d'Assurbanipal, à Ninive. Évidemment, on ne peut pas parler de ça en ce moment sans avoir un pincement au cœur, étant donné les dégradations et les déprédations dont nous sommes malheureusement les témoins. On a retrouvé dans cette très ancienne bibliothèque, on est au milieu du 7e siècle avant notre ère, en 650, des tablettes astronomiques remontant au 20e siècle avant notre ère. Et ces tablettes, figurez-vous, déjà font état d'éclipses passées et, ce qui est beaucoup plus étonnant et ce qui nous amène directement au sujet d'aujourd'hui, de tentatives pour prédire des éclipses à venir. On a donc compris qu'il y a une récurrence, une régularité et que derrière la folie des monstres engloutisseurs de soleil se cache peut-être quelque poésie scientifique. En tout cas, c'est le terme que nous emploierions, nous. Les Chinois l'avaient compris. Dès le 28e siècle avant notre ère, les Chinois auraient été capables de prédire les éclipses de lune et de soleil grâce à un système de... Alors, Alain Siroux sera beaucoup plus à même que moi de nous expliquer. Ce système est un système de compas et de travaux sur l'horizon qui permettait, semble-t-il, d'établir la régularité de certaines éclipses. Un système qu'on appellera plus tard le système de Saros. Ce sont les Chaldéens qui le mettront au point un peu plus tard et dans des régions nettement plus occidentales. Ce calcul, celui des Chinois, établissait qu'au bout de 6585 jours, alors ne faites pas de calcul inutile, 6585 jours, ça fait 18 ans et 11 jours, eh bien la Terre, le Soleil et la Lune sont alignés. C'est assez approximatif, évidemment, parce que le calcul en question ne peut pas prendre en compte les variations de mouvement de la Lune et de la Terre. Donc, ça reste quand même une approximation. La légende chinoise veut qu'entre 2165 et 1948, avant notre ère, Si et Ho, qui sont les deux astrologues royaux de l'époque, ont eu pour mission d'observer le ciel pour formuler un certain nombre de prophéties. Alors, l'empereur leur a dit, enfin ce qui à l'époque tenait lieu d'empereur, leur a dit « Si vous avez le savoir auquel vous prétendez, vous devez pouvoir me dire quel jour le soleil sera obscurci. » C'est vous dire, entre parenthèses, l'importance du phénomène, la force qu'il revêt aux yeux d'un certain nombre des civilisations du passé. Alors, les pauvres malheureux, on disait, imagine les pauvres calculateurs, si et ho, ils ont fait des calculs, ils se sont pris un peu les pieds dans leur propre schéma, et finalement, ils n'ont pas été capables de prédire l'éclipse. Sanction ? Oh, c'est tout simple, ils ont été décapités. Ils auraient dû prédire le phénomène pour permettre d'enclencher la procédure habituelle, c'est-à-dire une manifestation qui réunit tous les guerriers possibles, des centaines d'archers qui, au moment où le soleil va disparaître, se mettent à tirer furieusement vers le ciel toutes les flèches de leur carquois. En même temps, on se met à jouer du tambour, un peu comme au Vietnam. Hein, c'est le même principe et c'est sans doute la même croyance. Effrayer le dragon, l'empêcher de manger le soleil, ou si toutefois il le fait, l'obliger à très vite le recracher. D'ailleurs, ce n'est pas inintéressant de voir que l'idéogramme chinois qui signifie éclipse, c'est chi qui veut dire par ailleurs manger, avaler. L'éclipse, c'est la lumière avalée. Alors, venons-en peut-être à une civilisation plus proche de nous. C'est Thalès, bien entendu, qui, dans la Grèce antique, est censé avoir été le grand mathématicien capable de prédire des éclipses. Et notamment, il aurait prédit l'éclipse de 584 avant notre ère. C'est très important, ça, parce qu'on est en plein cœur de la guerre qui oppose les Ioniens et les Lydiens. Alors, les Ioniens, c'est les gens de Milet, de Phocée, etc. On va dire que c'est la partie est de la Méditerranée, hein, c'est l'actuelle Asie mineure. Et puis, les Lydiens, sont les habitants de la région à l'est de l'Ionie. Et Thalès, avec ses savants calculs, aurait été capable de prédire aux Ioniens exactement le jour et l'heure de l'éclipse, ce qui fait qu'évidemment, eux ont engagé la bataille et sur le champ de bataille, ils ne se sont pas du tout étonnés de voir le soleil disparaître. Et vous imaginez, si je puis dire, la tête de ceux d'en face qui, eux, ne sachant rien, ont vu d'un seul coup la lumière s'amenuiser, le soleil disparaître et les dieux les abandonner.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Revenons avec vous, Franck Ferrand, aux éclipses de soleil dans l'histoire.
La plus célèbre de toutes les éclipses, en tout cas pour la civilisation occidentale, reste évidemment l'éclipse du soleil au moment de la crucifixion de Jésus de Nazareth. Dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, tous trois font état de cet assombrissement du ciel au moment de la crucifixion. Je vous lis Saint-Luc chapitre 23, versets 44-46. « C'était environ la sixième heure, donc midi, quand le soleil s'éclipsant, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure, c'est-à-dire jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le voile du temple se déchira par le milieu et Jésus dit en un grand cri « « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et ce disant, il expira. Ça, c'est ce que nous dit Saint Luc. Dans Matthieu, chapitre 27, verset 45, « À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. » Et chez Marc, chapitre 15, verset 33, « La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. » On voit bien qu'il y a là, en tout cas chez les premiers chrétiens, beaucoup plus qu'une croyance. Il y a un savoir, et qui plus est, un savoir précis. En vérité, une éclipse, ça ne dure que total, en tout cas, ça ne dure que 2 ou 3 minutes. Mais il est certain que l'assombrissement du ciel commence bien en amont et se perpétue jusque nettement plus tard. Et c'est vrai que le phénomène entier peut être considéré comme s'étendant sur 3 heures environ. Les astronomes modernes ont calculé qu'une éclipse a bien eu lieu en 29 de notre ère et qu'elle a pu être parfaitement visible de Jérusalem. Cependant, il y a quand même un certain nombre de doutes qui subsistent. La crucifixion est censée intervenir la veille de la Pâque juive, une Pâque juive qui est toujours célébrée à la pleine lune. La pleine lune, ça veut dire que la Terre est entre le Soleil et la Lune, donc là, il ne peut pas y avoir d'éclipse de Soleil, par définition. On s'est posé des questions sur l'année exacte, finalement, de la crucifixion de Jésus. Tout dépend de la durée de sa vie publique. Et les spécialistes, de ce point de vue, divergent. Et vous savez qu'ils divergent même beaucoup. Il y a des écarts de 2, de 3 ans. En fonction de cela, la mort de Jésus aurait pu avoir lieu en 29, en 30 ou en 33. Et c'est là que c'est intéressant d'essayer de faire coïncider les écritures, c'est-à-dire des textes qui sont d'abord des textes de foi, avec un phénomène qui, lui, est un phénomène naturel que les scientifiques d'aujourd'hui peuvent clairement dater et dont ils peuvent nous dire si, oui ou non, il a pu avoir une incidence en un lieu précis, en l'occurrence à Jérusalem. C'est très intéressant cette question et entre parenthèses, je fais juste une petite parenthèse, je vous signale d'ores et déjà que dans le cadre de l'ombre d'un doute sur France 3, nous venons de faire ce travail pour toute l'histoire de la Passion du Christ avec tous les différents épisodes qui ont été passés au tamis de l'histoire, si je puis dire, et analysés par des historiens. Je ferme la parenthèse. Alors, ce qui est certain, c'est que depuis très longtemps, on annonçait toutes sortes de malheurs et que généralement, les prophéties catastrophistes vont de pair avec l'annonce d'éclipses solaires. Ça, c'est tout à fait spectaculaire, c'est systématique. Et un peu plus tard dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse de Saint Jean, il y a « le ciel s'obscurcira » et on sait que l'Apocalypse va avoir lieu dans une espèce de pénombre de fin des temps, par définition. Une éclipse a eu lieu également au moment du millénaire de la Passion. C'est intéressant, c'était le 29 juin 1033. Et à l'époque, inutile de vous dire qu'elle a été évidemment analysée, considérée, interprétée comme une résurgence de la Passion. C'était l'anniversaire, c'était l'annonce peut-être de la fin des temps. Sigebert et Jean Blou racontent le phénomène, je cite les chroniqueurs médiévaux. La même année, la millième après la Passion du Seigneur, puisque Jésus est censé avoir été crucifié en 33, le troisième jour des calendes de juillet, un vendredi 28e jour de la Lune, se produisit une éclipse ou obscurcissement du soleil qui dura depuis la 6e heure de ce jour jusqu'à la 8e et fut vraiment terrible. Le soleil prit la couleur du saphir, donc il devint très rouge, et il portait à sa partie supérieure l'image de la lune à son premier quartier. Les hommes, en se regardant entre eux, se voyaient pâles, comme des morts. Les choses semblaient toutes baignées dans une vapeur couleur de safran. Alors, une stupeur et une épouvante immense s'emparèrent du cœur des hommes. Ce spectacle, ils le comprenaient bien, présageait que quelque lamentable plaie allait s'abattre sur le genre humain. Et l'on sait que d'autres éclipses bien plus proches de nous ont eu à peu près le même effet. Voilà par exemple ce qu'Honoré Boucher, dans sa description de Provence, raconte à propos d'une éclipse, alors là très tardive, celle de 1654. Je le cite. À l'occasion d'une éclipse qui arriva sur les 9 ou 10 heures du matin, le 12 du mois d'août, donc 1654, il se fit de plus grandes sottises, non seulement en province, mais encore dans toute l'Allemagne, la plus grande sottise qu'on ait jamais entendu raconter. Quelques-uns ayant fait courir le bruit que quiconque se trouverait dans la campagne au point de l'éclipse ne passerait pas la journée, donnèrent l'occasion aux plus crédules de se tenir enfermés dans leur chambre. Les médecins même autorisèrent ces fadaises, obligeant de tenir les portes et les fenêtres fermées et de n'avoir dans les chambres d'autres clarté que celle des chandelles, et sur le bruit qui courait, quand ce jour-là tout le monde devait périr, on ne vit jamais tant de conversions, tant de confessions générales et tant d'actes de pénitence.
Je vous rappelle que vous pouvez réagir tout au long de l'émission par mail europe1.fr, via Twitter avec le hashtag ACDH ou encore sur notre page Facebook où nous atteignons bientôt les 40 000 mentions j'aime avec pour vous un très beau cadeau à la clé. Merci encore pour votre fidélité. La suite de votre récit Franck Ferrand sur les éclipses solaires, c'est dans un court instant sur Europe 1.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous Franck Ferrand aux éclipses de soleil qui ont jalonné l'histoire.
Alors j'ai beaucoup, depuis le début de ce petit récit, promener la mémoire et l'histoire dans les croyances humaines, mais il est évident que plus le temps passe et plus ces phénomènes sont concrètement observés et même scientifiquement. Peu à peu, l'on se met à être capable de prédire les éclipses avec d'ailleurs beaucoup de précision. Le 3 mai 1715, Edmond Halley, ah, ça vous dit quelque chose parce que nous en avons parlé il y a peu de temps, qui était astronome royal, hein, bien entendu, Halley organise la première campagne d'observation d'une éclipse, on est donc en 1715, il est lui-même à la fin de sa vie, un siècle plus tard, ce sera quasi systématique, on peut dire que les avancées scientifiques vont se multiplier et que les éclipses n'effraieront plus personne, bien entendu. C'est Halley qui réalise une carte présentant toutes les zones d'Angleterre où l'on pourra observer le phénomène, un peu comme le font nos scientifiques d'aujourd'hui, bien entendu. La première photographie d'une éclipse, je l'ai là sous les yeux, elle est magnifique, c'est celle de l'éclipse du 28 juillet 1851. Elle a parcouru à l'époque toute l'Europe de l'Est et le photographe, il s'appelait Wolfgang Berkowski, a été le premier à réaliser un daguerréotype de ce phénomène. Vous imaginez bien entendu l'incroyable succès qu'a pu avoir le fameux cliché qui aujourd'hui se trouve à l'observatoire de Königsberg. Il a fallu 84 secondes de pause avec une lunette de 6 cm, bon, 84 secondes, ça va encore. C'est-à-dire que, bien sûr que pendant une éclipse, et pour en avoir vu une moi-même, et je pense que nous sommes nombreux à pouvoir en dire autant, nous avons tous le souvenir de l'éclipse de 1999, ça dure quand même plusieurs secondes. Et si l'on voit à l'œil nu la Lune se déplacer devant le Soleil, néanmoins, le beau disque bien noir créant l'espèce d'auréole autour de lui se maintient dans le ciel presque une minute. En vérité, peut-être même un petit peu plus. Alain Siroux va nous dire ça dans un instant. L'étude des photographies d'éclipse va permettre un certain nombre d'avancées. Angelo Secchi, qui est un prêtre italien, mais qui est surtout un grand astronome, Secchi, va nous dire un coup d'œil sur une de ces épreuves, donc de ces photographies si vous préférez, en apprendra bien plus que toutes les descriptions écrites ou verbales. Le grand débat de l'époque, c'est le suivant. On observe depuis longtemps des lueurs rosées autour de la Lune au moment d'une éclipse. Les astronomes les appellent les protubérances ou proéminences. La question c'est, est-ce qu'il s'agit d'une illusion d'optique ou est-ce qu'il s'agit vraiment de l'apparence de montagnes géantes qui se trouveraient à la surface du Soleil ? Le 18 août 1868, Janssen va percer le mystère des fameuses protubérances. La France envoie 5 astronomes observer une éclipse qui doit avoir lieu en Asie. Il y a 2 expéditions, une en Inde, une au Siam. Victor Duruy, qui est ministre de l'instruction publique à l'époque, présente le projet à l'empereur. Son principal but, dit-il, serait d'observer la prochaine éclipse, mais il faut prévoir l'hypothèse où l'état du ciel rendrait cette observation difficile et même impossible. C'est pour ça qu'on envoie donc 2 équipes entières. Malgré cela, Napoléon III, le Conseil d'État, les 2 chambres vont allouer un budget de 50 000 francs, ce qui est un énorme budget, hein, c'est un tiers du budget annuel de l'Observatoire impérial de l'époque, pour permettre à cette équipe, à ces 2 équipes en tout cas, de mener à bien leurs observations. L'éclipse va durer plus longtemps que la moyenne, 6 minutes 57 secondes, ça c'est très intéressant pour les scientifiques évidemment, et c'est un succès puisque l'astronome Jules Janssen va percer le mystère de la protubérance. « Malgré leur apparence, écrit-il, ces jets de feu, ces colonnes de 30 000 lieues de hauteur ne sont que des masses gazeuses d'hydrogène incandescent. » C'est un petit peu décevant, mais bon, c'est ainsi. On aurait adoré l'idée de montagnes entières, de feu à la surface du Soleil. C'est cette éclipse, entre parenthèses, qui permet d'en savoir davantage sur le phénomène. Mais à chaque éclipse, désormais, on en saura un petit peu plus. Et notamment, il y a la fameuse éclipse de 1919. Or, 4 ans plus tôt, Albert Einstein, qui est encore tout jeune, hein, il a 36 ans, a formulé sa théorie de la relativité. Son hypothèse, c'est que la matière déforme l'espace et dévie les rayons lumineux qui passent à proximité de n'importe quelle matière. Les étoiles ne suivent donc pas une trajectoire rectiligne, mais elles dévient en fonction des masses autour desquelles passe leur lumière. Les rayons de l'étoile seraient donc déviés de 1,75 secondes par rapport à son emplacement habituel, si la théorie d'Einstein se révèle exacte.
Le meilleur moyen de confirmer l'hypothèse, c'est d'observer un astre situé à proximité du Soleil pour voir si cette énorme masse dévie effectivement les rayons. Le seul moyen, c'est d'observer ça au moment d'une éclipse. Parce qu'évidemment, quand le Soleil est lumineux, je vous défie de faire une telle expérience. Eh bien, le 29 mai 1919, la grande éclipse attendue au Brésil et dans le golfe de Guinée survient enfin. On monte de nouveau, non pas une, mais deux expéditions. Une à Cobral au Brésil, où les conditions d'observation sont absolument excellentes. Et puis la seconde, sur l'île de Príncipe, au large de la Guinée équatoriale. Là, il y a d'énormes orages et donc, évidemment, l'expérience sera nettement moins concluante. On photographie l'éclipse à proximité de laquelle se trouve la constellation des Pléiades et finalement, 6 mois plus tard, on prend de nouveaux clichés, des clichés de nuit cette fois, et en les comparant, on découvre un écart. Alors tenez-vous bien, il fallait 1,75 secondes, on est à 1,65 secondes entre la position normale et puis celle de la constellation lorsqu'elle se trouve à proximité du Soleil. Donc la théorie de la relativité telle que l'avait formulée Einstein se trouve prouvée. Depuis, l'éclipse de 1919 est appelée éclipse d'Einstein. Oui, on va nommer bientôt les éclipses, ça on va y venir dans un instant avec Alain Siroux. Et je vous rassure, il y a bien entendu une éclipse Alain Siroux. Bonjour Alain.
Bonjour Franck.
Elle était quand cette éclipse Alain Siroux?
Je dirais que c'est sans doute le plus beau phénomène que j'ai jamais vu de ma vie. Quand je parle d'éclipse, j'ai les poils des bras qui se dressent, vous voyez. C'est-à-dire que c'est pas simplement quelque chose qu'on sait qui est beau. On sait que la Lune va passer devant le Soleil, qu'elle va l'éclipser, mais il se passe quelque chose d'étrange qui dépasse la connaissance, c'est le spectacle.
Eh bien, nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, des éclipses, avec votre invité Alain Siroux, consultant scientifique d'Europe 1, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace.
Le Soleil s'éclipse, nous dit Ciel et Espace, le magazine de l'astronomie, dans son numéro de mars 2015. Cartes, mécanismes, photos, lieux de rendez-vous, voyages. Et j'ajoute une paire de lunettes pour observer l'éclipse de vendredi prochain. On peut dire que vous avez tout prévu, Alain Siroux.
Il ne faut rien rater, vous savez, dans les histoires du passé. Moi, il y a une que j'adore, qui est la vision de l'éclipse de Peuplade, qui pensait que le Soleil et la Lune étaient amants. Et quand ils se retrouvaient, et donc ils s'embrassaient, alors ils éteignaient la lumière par pudeur. Donc il faut qu'on suive cela, mais qu'on laisse quand même l'obscurité se faire.
Alors, ce n'est pas l'obscurité que nous attendons de vous aujourd'hui, c'est au contraire la lumière. Vous me disiez, juste avant la publicité, que rien ne pouvait émouvoir un astronome comme vous mieux qu'une éclipse.
Oui, parce qu'il se passe quelque chose d'absolument incroyable. D'abord, il y a un cadeau de la nature qui est que, vous savez que la Lune et le Soleil n'ont pas la même taille. Mais il y a une petite coïncidence qui est extraordinaire. C'est que la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais le Soleil est 400 fois plus loin. Ce qui fait que vous avez dans le ciel deux disques qui apparemment ont le même diamètre. Et ça, c'est une chose qui est déjà tout à fait miraculeuse. S'il n'y avait pas ça...
C'est un pur hasard.
C'est un pur hasard, complètement. Donc ça crée déjà l'éclipse. C'est-à-dire qu'au moment où, dans des circonstances favorables, la Lune passe devant le Soleil, donc au moment où les trois corps...
Elle le cache, mais exactement, ni plus ni moins. C'est ça qui est incroyable.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est très compliqué. Et on a mis du temps à comprendre le phénomène. C'est que la Terre tourne autour du Soleil selon un plan qu'on appelle le plan de l'écliptique. Et puis la Lune tourne autour de la Terre elle-même, mais pas tout à fait sur le même plan. Il y a un écart de 5 degrés. Donc, de temps en temps, finalement, les plans sont alignés. Parce que sinon, vous auriez une éclipse à chaque fois. Finalement, les trois corps seraient alignés. Donc, on a des moments où, selon des cycles qui ont été repérés par les anciens, eh bien, on a le passage exact de la Lune devant le Soleil. Mais la Lune n'est pas toujours à la même distance. Parfois, elle est plus près. Parfois, elle est plus loin. Donc, ça veut dire qu'elle est plus grosse ou qu'elle est plus petite. Donc, vous avez des éclipses qu'on dit annulaires, c'est-à-dire que la Lune...
On voit bien le Soleil derrière.
Alors, la Lune est éloignée, il reste un anneau. Elle ne le masque pas complètement. Une éclipse annulaire, et on en verra une, par exemple, le 1er septembre 2016, à La Réunion et à Madagascar. C'est un très beau...
Vous ferez le voyage ?
Ah ouais, je pense. C'est quand même...
incroyable.
C'est un anneau de
feu.
Vous
êtes un vrai fondu, si je puis dire.
Je pense qu'on peut courir après les éclipses, parce que si on reste sur son siège, en moyenne, il faut attendre 370 ans pour en voir une totale. Donc, c'est un objet de voyage génial, quoi. Et puis, de temps en temps, elle est plus près, et elle masque complètement, et l'éclipse peut durer quelques secondes, ou un petit peu plus de 7 minutes.
Il y a des tortues qui doivent pouvoir voir deux deux éclipses dans leur vie. Mais enfin, ça,
absolument,
c'est une autre question.
Bon. Absolument. Mais alors, c'est vrai, c'est tellement beau, c'est tellement émouvant. Parce que c'est pas simplement le soleil qui disparaît, c'est la lumière qui change, c'est le froid qui s'installe, c'est les animaux qui vont se coucher, les oiseaux qui s'envolent, les vaches, les poules qui rentrent à l'étable.
On a une impression, alors moi je n'ai que le souvenir de l'éclipse de 1999, tellement spectaculaire, le 11 août 99, ça c'était tout à fait extraordinaire. Et c'est vrai que l'atmosphère est très bizarre. Ça n'est pas comme la tombée du jour le soir.
Non.
Et ça n'est pas comme un crépuscule du matin non plus.
Non.
On est dans une sorte de suspension du temps. On a l'impression que la nature ne comprend pas ce qui se passe, en
quelque
sorte.
Ça. On dit souvent que le soleil, c'est la seule étoile qu'on ne peut pas voir la nuit. Eh bien là, il y a une main invisible qui va tourner un bouton et qui va éteindre le soleil. Mais de façon très curieuse, lorsque la lune passe devant le soleil, finalement, elle masque la lumière du soleil et ce qui continue à nous éclairer, c'est une lumière de côté. Et cette lumière, elle change de couleur. Elle devient argentée. La température baisse puisqu'il y a moins de lumière, moins de photos qui nous arrivent. On sent ce qu'on appelle le petit vent de l'éclipse qui arrive et puis on voit des ombres volantes comme si on était un peu au fond d'une piscine. Il y a une atmosphère qui est très curieuse, qui s'installe et qui donne cette idée que une grande catastrophe imminente arrive, le soleil va disparaître. Et on a beau savoir ce que c'est quelque chose qui nous touche au plus profond.
On comprend donc pourquoi ceux qui, à travers un certain nombre d'épisodes historiques, ont pu assister à une éclipse, en ont été bouleversés. Et l'on comprend pourquoi s'il y a eu une éclipse au moment de la crucifixion, c'est complètement sidéré tout le monde. Et l'on comprend pourquoi des batailles entières ont pu voir leur destin, leur sort incliné en fonction de cette éclipse. Alors, l'éclipse la plus célèbre, en tout cas pour nous dans la civilisation occidentale, c'est évidemment celle dont se font l'écho les Écritures, c'est-à-dire donc celle de la mort de Jésus. Alors, que s'est-il passé là ?
Alors, c'est extrêmement difficile. Vous savez que l'astronomie peut remonter le temps tout simplement en regardant le mouvement des astres et essayer de finalement faire tourner la Lune dans l'autre sens et de repositionner ses trois corps. Sauf que il y a une chose qui est extrêmement complexe qui a fait qu'il a fallu de très 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 nombreux siècles pour donner des prévisions et des prédictions sur les éclipses, surtout de soleil en particulier, c'est que les mouvements de la Lune sont extrêmement erratiques et extrêmement nombreux. Donc il faut mettre aujourd'hui dans les ordinateurs des centaines et des centaines de données différentes sur le mouvement de la Lune. Qu'y a-t-il au centre de la Lune? Comment ça se comporte? Il y a quelque chose d'un peu chaotique. On peut prévoir, bien évidemment, quand auront lieu les éclipses.
La preuve.
On peut remonter le cours de l'histoire, mais finalement, pas si loin que ça. Et puis là, on se heurte à un problème qui est le problème du calendrier. C'est-à-dire, où est l'observateur? Quel jour exactement?
Il était à Jérusalem, en l'occurrence.
Il est à Jérusalem. On a des informations. Donc là, vous l'avez expliqué, il y a évidemment deux hypothèses. Il y a même des discussions pour savoir si ça n'est pas une éclipse de lune et pas une éclipse de soleil. Puisque quand il y a une éclipse de lune, il y a aussi en parallèle une éclipse de soleil.
C'est-à-dire
que, en fait, vous avez la lune qui est sur le même plan d'orbite. Eh bien, lorsqu'elle passe de l'autre côté, eh bien, vous avez l'ombre de la Terre qui se projette sur la Lune. Et donc là, vous avez une éclipse de Lune qui est visible aussi par tout un continent. Donc la question est extrêmement difficile parce que c'est une question de sources et de données précises. On a des informations sur les éclipses de l'histoire, mais est-ce qu'elles étaient visibles au moment de la Passion? C'est une autre histoire.
Alors j'ai essayé, parce que c'est très complexe cette histoire de déplacement de rayons lumineux, mais j'ai essayé d'expliquer en quoi l'éclipse de 1919 avait justifié avait été venu confirmer la théorie de la relativité d'Einstein. Est-ce que aujourd'hui encore les scientifiques utilisent les éclipses pour faire un certain nombre de confirmations ou d'observations?
Je dirais plus que jamais. C'est assez extraordinaire, mais depuis qu'on sait qu'il y a des jeux d'ombre et de lumière, il y a un côté théâtre chinois, vous savez, parce que l'éclipse c'est l'ombre et c'est la lumière. Qu'est-ce que c'est que l'ombre? Est-ce que l'ombre c'est une absence ou est-ce que c'est le signe de quelque chose? Cette disparition de lumière sert aux astronomes aujourd'hui, non pas nécessairement dans le système solaire, mais à l'extérieur, quand on regarde les étoiles par exemple, on sait aujourd'hui que il existe des planètes qu'on appelle des exoplanètes qui tournent autour d'autres étoiles et quand elles passent devant le disque de l'étoile, elles font légèrement baisser cette lumière, ce qu'on appelle un transit. C'est une sorte d'éclipse, mais à très grande distance, toute petite et les astronomes observant le passage des exoplanètes devant les étoiles sont capables de dire qu'elles existent, de donner des informations sur leur masse, parfois leur position. Et on sait aujourd'hui que dans l'univers, en tout cas dans la Voie lactée, il existe des milliards de planètes comme cela qu'on peut détecter.
Ça, c'est pour les observations qu'on fait aujourd'hui. Mmh. Est-ce qu'on va voir dans un instant avec vous, Alain Sirou, c'est qu'au cours de l'histoire, un grand nombre des savoirs, des connaissances qu'on a pu acquérir sur le cosmos ont été liés à des observations au moment d'éclipse.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Ce sont les éclipses qui sont au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec Alain Sirou, notre consultant scientifique d'Europe 1, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace, dont le dernier numéro est en kiosque actuellement.
Évidemment, le numéro de ce mois-ci de Ciel et Espace, dont Alain est le directeur de la rédaction, ne pouvait que faire sa couverture sur l'éclipse de soleil. Le soleil s'éclipse, ça faisait combien de temps que ça n'était pas arrivé ?
En France, depuis le 11 août 1999.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est quand même la 11e éclipse du 21e siècle. Ça veut dire que les éclipses sont quand même quelque chose d'assez courant.
Oui,
mais
si vous n'avez pas peur de l'avion et si vous avez quelques loisirs, vous pouvez en voir régulièrement des éclipses. Il faut se déplacer sur la planète, c'est tout,
et
c'est ça.
C'est un prétexte génial à voyager. Pour parce que la plupart se passent dans des endroits totalement exotiques.
C'est ça qui est formidable.
Il faut le prévoir à l'avance. Et là, c'est une occasion extraordinaire de vivre une expérience avec des gens. Il y a une espèce de communion générale. On a l'impression qu'on a vécu ensemble un spectacle extraordinaire.
C'est
et c'est vrai.
C'est pas seulement une impression. C'est une vérité.
C'est une vérité,
oui.
Absolument.
Alors, quelles sont les grandes découvertes qu'on a pu faire dans le passé grâce à des éclipses ?
Alors, la première découverte d'importance, je dirais, c'est de mesurer les distances
et voilà.
Qui nous entourent. C'est-à-dire que là, pour le compte, ça a commencé assez tôt. C'est l'idée que, finalement, à quelle distance est la Lune et à quelle distance est le Soleil ? Et puis, quelle est la taille de la Lune par rapport à la Terre ?
On a peut-être compris, grâce à ça, que la Terre était ronde.
C'est
important aussi.
Quand les Grecs ont vu l'ombre de la Terre se projeter sur la Lune, ils en ont déduit qu'elle était ronde, déjà, ce qui n'était pas si évident que ça. Et on réussit à mesurer les rapports respectifs entre la Lune et le Soleil. Et puis ensuite, il a fallu du temps pour mesurer les distances à la Lune, les distances au Soleil, parce que aujourd'hui, nous savons que le Soleil est 400 fois plus éloigné que la Lune, mais encore fallait-il le prouver, encore fallait-il trouver la solution pour arriver à cela. Donc la première chose que nous permet l'ombre et la lumière, c'est de calculer les distances et d'avoir des informations sur l'arpentage, en quelque sorte, du système solaire.
Ensuite, ça a permis d'observer le Soleil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit quand même plus facilement le Soleil lorsque les trois quarts ou plus de l'astre sont cachés. Ça permet d'observer le Soleil en face d'une certaine manière.
Ça permet de regarder le Soleil en face et surtout de se rendre compte que c'est un objet assez étrange qui est entouré.
En quoi est-il fait ? Voilà, c'est ça.
En quoi est-il fait ? Et il est entouré d'une atmosphère. On l'oublie souvent, mais l'atmosphère du Soleil s'appelle la couronne. Et cette couronne est une sorte d'aura dont on se demandait d'abord si c'était autour de la Lune, si elle était une atmosphère de la Lune, jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle est une atmosphère du Soleil et que cette atmosphère, elle montre en quelque sorte l'humeur du Soleil. Par exemple, dans quelques jours, on va pouvoir se rendre compte que nous sommes dans une période de soleil d'activité maximale. On note déjà, grâce aux satellites, de grandes éruptions sur le soleil et on sait que les observateurs qui vont avoir la chance de voir la couronne vont voir sans doute de grandes éruptions et cette couronne assez étendue parce qu'elle est le signe de l'humeur et de l'activité du soleil aujourd'hui. Il a fallu du temps pour comprendre cela. Et ça a permis, je dirais, d'être extrêmement ingénieux. Un scientifique français qui s'appelle Bernard Liot a inventé un appareil à faire des éclipses artificielles qu'on appelle le coronographe, où on installe un masque en quelque sorte à la place de l'objectif du télescope, de la lunette pardon, et on occulte le centre du soleil pour ne voir que la périphérie et les éruptions. Donc on va s'inspirer de la nature.
On fait de l'éclipse artificielle là,
exactement.
En quelque sorte.
Ouais. Et pour apprendre simplement comment le soleil fonctionne.
Bon, ça a permis, puisqu'on parle de distance et puisqu'on parle de projection, etc., ça a permis également le calcul de la vitesse de la lumière.
C'est merveilleux. C'est la découverte de Galilée avec une lunette qui montre que autour
on est
de...
donc là au XVIIe siècle.
Alors on est en 1610, exactement, c'est l'invention de la lunette que Galilée pointe vers Jupiter et les quatre satellites médicéens, disait-il à l'époque, on dit maintenant galiléens, c'était pour remercier
Laurent le Magnifique,
et qui découvre que ces petites lunes tournent autour de Jupiter et font des éclipses, apparaissent, disparaissent, on voit parfois leur ombre se projeter dessus aujourd'hui, et on va calculer finalement les éphémérides des satellites galiléens et découvrir, et ça c'est au XVIIIe siècle, XVIIe siècle, que finalement ces tables, elles ne sont pas justes. Quand on est au plus près de Jupiter, on a 8 minutes d'avance sur les éclipses et les occultations. Et quand on est au plus loin de Jupiter, on a 8 minutes de retard. Donc quelque part, il se passe un phénomène qu'on va découvrir, qui est que la Terre tourne autour du Soleil, que le Soleil est éloigné de 150 millions de kilomètres. Donc quand on est de l'autre côté, c'est 300 millions. Quand on est au plus près, c'est 150.
C'est aussi simple que ça.
Et c'est la distance qui nous sépare, en fait, des satellites de Jupiter, qui va permettre de calculer la vitesse de la lumière, presque 300 000 kilomètres à la seconde.
À quel moment est-ce qu'on calcule ça? Donc,
on est au XVIIe siècle, avec Rohmer, et on fait effectivement ces observations tout à fait extraordinaires.
Alors, évidemment, pour observer une éclipse de soleil, il faut prendre des précautions. On l'a suffisamment dit et répété. Les questions des fameuses lunettes, tout le monde n'en aura pas vendredi, semble-t-il. Ça va être compliqué. Il faut vite se jeter sur le numéro de Ciel et Espace.
Heureusement, il y en a dans les casques. C'est bien parce que les astronomes...
Mais parce qu'on ne peut pas observer ça à l'œil nu. C'est dangereux, c'est ça?
Non, c'est extrêmement dangereux parce que le soleil peut vous brûler les yeux. Et pour le compte, c'est de façon tout à fait irrémédiable. Donc, vous devez prendre...
Qu'on n'est pas, puisqu'on le sait depuis longtemps qu'il y avait cette éclipse, on aurait dû prévoir quand même le nombre de... On l'avait fait en 99, je me rappelle qu'Europe 1 d'ailleurs avait distribué à l'époque des millions de paires de lunettes, enfin des milliers en tout cas.
Des milliers, ça avait été aussi difficile en 1999 de convaincre les pouvoirs publics, ou d'au moins de faire l'information. Aujourd'hui l'information existe, simplement je dirais que le marché, entre guillemets, ne prend pas la mesure des éclipses pour une raison très simple, c'est que finalement c'est un phénomène assez rare localement. Bah, si ça se vend pas, vous restez avec un stock
lunettes,
sur les bras,
oui, voilà.
Et certains se disaient, mais si c'est dangereux et que ça sert à se protéger, on ne veut pas y être parce qu'on ne veut pas être associé à quelque chose de dangereux. Donc il faut vraiment se protéger.
Ça veut dire qu'au XVIIe siècle, par exemple, en 1654, lorsqu'on voit que la plupart des gens se claquent mur, rentrent chez eux, ferment leurs volets, etc., c'était peut-être assez prudent de leur part parce qu'on devait sentir que c'était dangereux d'observer le soleil comme ça directement.
Sans doute, mais il y avait des moyens de l'observer sans lunettes de protection qu'on peut toujours utiliser.
Alors,
aujourd'hui.
Racontez-nous comment il faut faire si on n'a pas de lunettes.
Alors, si on n'a pas de lunettes, on va utiliser la technique du sténopée, c'est-à-dire on va découvrir la photographie. Vous prenez tout simplement un carton et vous faites un trou avec une aiguille dedans, tout petit trou. Le petit trou va se comporter exactement comme un objectif. Vous mettez votre carton en direction du soleil, la lumière va passer dans ce petit trou et se projeter sur le mur ou par terre.
Donc vous aurez une projection, ce ne sera pas la vision.
Une projection, ce n'est pas une vision directe. Mmh. Et donc vous allez voir ce petit croissant de soleil.
Mais vous dites un petit croissant parce qu'elle n'est pas totale, l'éclipse.
Alors,
de vendredi.
Elle n'est pas totale sur la France, elle sera totale donc au nord, mais sur la France, on va osciller entre 65 et 85, 86%
nous,
de soleil éclipsé.
Nous, on est à Toulouse, puisqu'on va faire l'émission en direct de Toulouse. On sera à combien à Toulouse?
69%
ah, voilà,
à 10h30.
Oui. D'accord.
69% du soleil. Alors, juste pour se rendre compte ce que veut dire pourcent, quand il reste 1% du soleil en lumière, c'est l'équivalent de 10 000 pleines lunes. C'est-à-dire que c'est extrêmement brillant. Ce pourquoi il ne faut pas regarder le soleil en face, c'est que d'abord vous n'avez pas de nerf dans votre œil qui vous dit que vous allez vous brûler. Mais surtout, vous
ne
vous
pas mal. Le problème, c'est qu'on peut s'aveugler,
voilà.
sans avoir mal.
Mais vous verrez rien en fait. Mm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les lunettes permettent de filtrer un cent millième de la lumière solaire et surtout les infrarouges et les ultraviolets qui sont extrêmement dangereux. Donc ça, vous n'avez pas vraiment le choix. Il vous faut vraiment ces instruments de protection.
Non, je pense qu'on va beaucoup le répéter d'ici à vendredi, mais il faut le dire aux gens. N'allez surtout pas vous amuser à regarder ça comme ça à l'œil nu.
Absolument pas.
Eh bien, merci beaucoup Alain Sirou. Je ne peux que renvoyer nos auditeurs au numéro de mars 2015 de la revue Ciel et Espace, le magazine de l'astronomie, où l'on ne parle pas seulement de l'éclipse de soleil, mais où l'éclipse, évidemment, aurait tendance à éclipser un peu les autres sujets, si j'ose dire.
Et puis, il faudra, je dirais, si on est à Paris, attendre le 3 septembre 2081 pour voir une éclipse totale.
Oui, donc il ne faut quand même pas trop rater le coche. Ce serait dommage de faire la grasse matinée.
Donc, on a le temps de répéter.
Voilà. Merci beaucoup, Alain.
Merci.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Sébastien. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission et vous demande depuis quand et pourquoi nomme-t-on les distributeurs de courrier facteurs?
Ah oui, le nom du facteur, ça vient de factum, du latin factum, de facere, celui qui fait. D'ailleurs, dans bien des domaines, le fabricant a été longtemps considéré comme un facteur. Je pense au facteur d'orgue, par exemple, ou au facteur de piano. On parlait à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est au milieu du XVIIe siècle, on parlait d'un facteur de lettres. Et on parle précisément d'un facteur facteur de lettres, c'est-à-dire celui qui fait la distribution du courrier, on en parle à partir de l'installation de la petite poste en 1653. Qu'est-ce que c'est que la petite poste ? Ben là, il faut distinguer ce qu'on appelle la grande poste, qui est l'établissement d'un service de transport de courrier de ville à ville, avec la petite poste qui permet à l'intérieur d'une même ville ou d'une même aire géographique de s'envoyer du courrier presque de voisin à voisin. Cette petite poste, elle est instituée en 1653. Elle va pas durer très longtemps. Elle dure 3 ans. Au début de l'année 1657, elle est abandonnée. Et il va falloir attendre très longtemps, un siècle, pour que réapparaisse la petite poste. C'était en 1759. Et c'est là qu'on a besoin de ce qu'on appelle nous aujourd'hui un facteur ou un préposé, d'ailleurs, à la distribution, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque vous échangiez des liasses de courrier de ville à ville, il était possible d'aller chercher son courrier à la poste. Mais à partir du moment où on établit une poste beaucoup plus raffinée et qui distribue le courrier de manière beaucoup plus précise, évidemment, il faut un agent qui soit capable d'emmener la lettre d'une maison à une autre, d'une certaine manière. Alors, tout ça s'est fait progressivement. Dans un premier temps, on a eu un système de petites postes qui a été concentré sur les grandes agglomérations, sur Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nancy, etc. C'est en 1780, sous le règne de Louis XVI, que vont fusionner grandes postes et petites postes et que le métier de facteur, de distributeur de courrier, devient un métier à part entière. Il y aura des tournées de plus en plus fréquentes. Alors au début, je crois que la poste, il faudrait vérifier ça selon les régions, mais c'est une fois par semaine, tous les 4 jours pour certaines destinations. De 1830 à 1863, un jour sur deux, et à partir, sous le Second Empire, à partir de 1863, distribution quotidienne du courrier. Quand je dis quotidienne, dimanche compris, jusqu'en 1906, puisque le repos dominical, c'est seulement en 1906. Vous savez que jusqu'à une période très récente, on avait même dans les très grandes villes, je pense à Paris, une distribution du courrier 2 fois par jour. Je crois qu'on est revenu à une distribution quotidienne en ce moment. J'espère qu'on n'ira pas plus loin dans l'effet de symétrie et qu'on ne reviendra pas aux distributions hebdomadaires. Quoique.